Radio Kapi.
Oh Kapi. Patience Galula pour la présentation. Au sommaire de ce journal, le gouvernement reste déterminé à rendre effectifs les programmes du président Félix Tshisekedi tel qu'il l'a lui-même indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. Déclaration du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe l'a dit à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques tenue hier mercredi à Kinshasa. Une dizaine de morts et des blessés parmi la population, c'est le bilan encore provisoire des dégâts collatéraux enregistrés cet après-midi dans la cité de Mueso. À la base de cette situation, les affrontements entre les rebelles du M23, les groupes armés locaux et les FRDC au Nord Kivu. L'invité de ce journal est Rigan Cholet, l'un des membres du directoire de la plateforme Parvenir, qui rassemble des jeunes des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Il parle de mécanismes à mettre en place pour réclamer le renouvellement de la classe politique qui, selon ces jeunes, n'a plus rien à proposer au peuple congolais. Bonsoir à tous. Les programmes du deuxième quinquennat du chef de l'État, centrés sur la diversification de l'économie et l'évolution des paramètres macroéconomiques sur les plans national et international. Voilà les deux points essentiels au centre de la réunion du comité des conjonctures économiques que le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé hier mercredi à Kinshasa. Le gouvernement reste déterminé à rendre effectif les programmes du président Félix Tshisekedi tel qu'il l'a lui-même indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui l'a dit dans cet extrait du compte rendu choisi par Daniel Tambinzoni.
Produire, ça implique la construction des infrastructures, des routes de dessertes agricoles, des routes d'intérêt général, des routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie et tout ceci, créer de l'emploi et créer des richesses et donc de l'espoir pour le peuple congolais, ce qui fait que pour nous, derrière le Premier ministre Samalukonde, nous voulons absolument que les 6 points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade des martyrs, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe, tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan. Le Premier ministre a été très clair. À la prochaine réunion du comité des conjonctures, c'est-à-dire la semaine prochaine, Madame la ministre d'État du Plan et le ministre du Commerce extérieur, qui était porteur de ce projet au niveau de l'Ecofin, devront présenter un tableau de bord et une fiche, une feuille de route pour réaliser ce projet petit à petit.
Au Nord Kivu, la Banque des produits agricoles Oudjama signe de nouveaux contrats de partenariat des triples engagements avec les coopératives agricoles et les agriculteurs des Bwere-Mena dans les territoires des Masisi. La Banque des produits agricoles est une structure mise en place pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et leur donner espoir en leur assurant les marchés de leurs produits. L'idée de ces partenariats est de renforcer ses capacités d'approvisionnement en produits agricoles, mais surtout de assurer les paysans de l'écoulement de leurs produits. C'est comme l'explique ici Gédéon Witomere, entrepreneur et directeur gérant de Oudjama Holding. Il est au micro de Denise Lukeso.
Nous avions signé avec eux beaucoup de contrats. Ils étaient au nombre de 100 coopérateurs. Une coopérative comme Komatu qui comptait déjà 1500 agriculteurs, donc pouvait déjà estimer le nombre. On a signé ces contrats de l'engagement dans le sens de garantir aux agriculteurs ou aux coopérateurs l'écoulement de leurs produits, à leur instruisant aussi comment préparer la nouvelle saison culturelle qui va commencer bientôt après cette récolte. Parce qu'on a anticipé ces collaborations, vu que nous sommes vraiment presque dans une saison de récolte et que beaucoup d'agriculteurs ont peur, en fait, ils n'ont pas d'assurance pour l'écoulement de leurs produits. On est parti pour les soulager et leur montrer finalement que nous pouvons maintenant les aider à écouler les produits à un prix du marché, sans pour autant que ces gens soient frustrés ou soient écrasés par les acheteurs ambulants.
Dans la province du Maniema, plus d'une semaine depuis que le pont Luhuku se trouvant à 2 km de Kayembe, chef-lieu du secteur de Salamabila, à 27 km de Salamabila centre, a cédé, les conséquences se font enregistrer. Selon nos sources, difficile pour les enfants de se rendre à l'école et le prix des produits vivriers est revu à la hausse. Maître Saïd Ivumba, activiste des droits de l'homme et notable de ces coins, rappelle encore une fois le gouvernement provincial à la construction de ces ponts qui est d'importance capitale. Il a été joint par Florence Kizalunga.
C'est depuis plus d'une semaine que nous avons alerté l'opinion sur la situation de ce pont Luhuku. Nous sommes pendant la période pluvieuse où les eaux inondent chaque fois. Et cette rivière se trouve entre les deux villages, le village Kalimongo et Kayembe. Donc les enfants même de Kalimongo pour traverser, aller à l'école, ils ont du mal à traverser. Même des piétons, même les motards. Et les conséquences encore, c'est quoi? C'est les gros véhicules qui viennent d'ici qui ne vont pas traverser. Même si on envisageait cette solution provisoire que les chefs de secteur et sa population sont en train de se battre pour en avoir. Allez-y comprendre, madame. Non seulement la hausse des prix des produits vivriers dans les marchés de Salamabila, mais il faut voir, même à Wamaza, les commerçants qui attendaient impatiemment leurs marchandises, les véhicules traînent de l'autre côté, ils ne savent pas comment traverser. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de rappeler encore le gouvernement provincial de pouvoir venir en aide au chef de secteur qui est limité en termes de moyens pour la reconstruction de ces ponts. Les ponts doivent être reconstruits dans un bref délai, étant donné que ça se trouve dans un axe à importance capitale sur le plan économique entre les deux provinces, la province du Maniema et sa province sœur, la province du Sud Kivu.
Au Sud Kivu, environ 90 participants composés des chefs de chefferie, des administrateurs de territoire, de la société civile et autres sont en atelier à Bukavu depuis hier mercredi afin d'installer la commission consultative des règlements des conflits coutumiers CCRCC provinciale. Deux rôles majeurs sont assignés à cette commission, traiter les recours des sentences contestées par les CCRCC des secteurs et chefferie d'une part et traiter les conflits qui affectent les leaders de chefferie d'autre part. Cela dans le but de régler les conflits coutumiers auxquels sont confrontées les communautés. L'activité est financée par la MONUSCO et les PNUD. Rachel Kiesembangu a pris part à l'ouverture de cet atelier. Voici son reportage.
Les conflits de pouvoir coutumiers sont à la base de la recrudescence et la persistance de l'insécurité sous toutes ses formes dans l'interland de notre province et ont freiné significativement son essor économique et social.
Le gouvernement provincial dit porter un intérêt particulier à cette activité car ces conflits coutumiers ont longtemps plombé le développement du Sud Kivu. Du 24 au 26 janvier, ils seront réunis pour renforcer leur capacité en matière de gestion des conflits coutumiers, élire et installer les membres de la CCRCC provinciale du Sud Kivu, enfin désigner le représentant du Sud Kivu au sein de la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers nationales, ce qui rassure quant à la gestion des conflits coutumiers. Marc Malago, vice-gouverneur du Sud Kivu.
L'organisation séjour de la CCRCC provinciale constitue pour le gouvernement du Sud Kivu un grand ouf de soulagement tant qu'il est appelé à recevoir toutes les réclamations pour une solution finale des stabilisations de nos pouvoirs coutumiers à la base.
Cette activité, organisée par le gouvernement provincial, bénéficie de l'appui technique et financier de la MONUSCO et du PNUD. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, affrontement entre les rebelles du M23, les groupes armés locaux et les FRDC au Nord Kivu. Une dizaine de morts et des blessés parmi la population. C'est le bilan encore provisoire des dégâts collatéraux enregistrés cet après-midi dans la cité de Mueso. Les victimes, dont plusieurs enfants, avaient trouvé refuge dans une maison en matériaux durables pour se mettre à l'abri des combats, témoignent les sources sur place. D'après ces sources, ces affrontements à l'arme lourde se sont poursuivis toute la journée ce jeudi, en pleine cité de Mueso, alors qu'une grande partie de la population est bloquée sur place. Cet incident, qualifié de drame par les acteurs locaux, suscite des réactions. Ces acteurs appellent les partis à cesser les hostilités en milieu des populations. L'armée n'a pas encore communiqué depuis la reprise de ces affrontements. La situation humanitaire s'est dégradée considérablement dans la région. Sifa Maguru.
Ces affrontements à l'arme lourde et légère ont provoqué des blessés hier mercredi parmi la population civile. Nos sources signalent 5 personnes blessées, dont un enfant et 2 femmes. Un grand nombre d'habitants est concentré à l'hôpital général de Mouesso sans assistance. D'autres ont trouvé refuge à la paroisse et d'autres ont pris la direction d'Empati et Boussoumba dans la même région. Nos sources affirment que les rebelles se trouvent à Nyenyeri, non loin du centre des activités, alors que les FARDC et les groupes armés sont à Bukama, au marché de Mouesso, 2 km du centre. Les deux belligérants se tirent dessus et exposent la population à la puissance des feux. Cette situation ne permet pas aux humanitaires de rester dans la région pour assister la population, excepté Médecins sans frontières qui est resté dans la zone et continue à appuyer l'hôpital général de Mouesso, témoignent nos sources. Rappelons que c'est depuis le début de la semaine que les affrontements ont repris dans la zone avant d'atteindre la cité de Mouesso. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, les acteurs de la société civile signalent des nouveaux cas de maladies d'origine hydrique dans les villages de Ndunda, à 15 km au sud-ouest de la cité de Sangui. Une jeune fille de 14 ans souffrant de choléra a été transférée hier de Ndunda vers l'hôpital général de référence de Sangui pour recevoir des soins appropriés. Fiston Goma Mayabala.
Les habitants du village Ndunda, situé le long de la rivière Ruzizi, expriment leur inquiétude quant au risque d'expansion de cette maladie dans toute la plaine de la Ruzizi. C'est notamment dans la cité de Sangue où l'on signale un manque criant d'accès à l'eau potable ainsi qu'aux inondations des rivières dans le groupement Kabunambo qui ont pollué les sources d'eau de la zone. Contacté à ce sujet, le chef de la cité de Sangue, Martial Matabishi Nyangé, précise que l'épidémie n'est pas encore déclarée officiellement dans la zone. Cependant, d'après la même source, 4 cas de choléra ont déjà été enregistrés, dont 2 cas parmi les demandeurs d'asile burundais hébergés au site de rassemblement du HCR à Sangue et 2 autres cas au village Ndunda dans le groupement Kabunambo. Au bureau de la zone de santé de la Ruzizi à Sangue, l'on signale que tous les malades de choléra sont pris en charge. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Retournons au sud Kivu pour parler cette fois de la clôture ce jeudi de l'atelier de sensibilisation sur la désinformation à la MONUSCO Bukavu, activité organisée par les bureaux de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO, avec objectif principal de sensibiliser les femmes, les jeunes, les journalistes et la société civile pour renforcer leur compréhension des enjeux de la désinformation et pour les outiller contre la désinformation avec des moyens accessibles. Rachel Kiesembangu, reportage.
La MONUSCO effectuant un désengagement de ses contingents du Sud Kivu d'ici le 30 avril 2024, il est essentiel que le processus soit bien compris et communiqué de sorte que la population ait accès à la bonne information et diffuse les bons messages. Esther Mubalama de la dynamique Femmes et Enfants participante à cet atelier. Elle revient sur l'utilité de cette rencontre.
Cette formation, c'était sur la lutte contre la désinformation, surtout sur la MONUSCO. Parce que nous avons vu pas mal d'informations sur qui il est sur les réseaux sociaux, sur ce que la MONUSCO a fait, ce que la MONUSCO n'a pas fait et qu'elle devrait faire. Et la plupart des fois, on ne savait pas distinguer le vrai du faux. Mais cette formation ici vient de me montrer qu'il y a 2 messages qu'on partageait sans les savoir, qui étaient des mauvaises informations, parce que tout simplement, on n'avait pas cet aspect-là de vérification. Et les conséquences de ces messages ont de l'impact sur notre communauté.
À l'issue de cette formation, les participants ont été outillés avec de l'information et des outils leur permettant de détecter le vrai du faux, surtout de se questionner avant de partager une information. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
À Lubumbashi, célébration hier mercredi, le 24 janvier, de la Journée internationale de l'éducation. Placée sous le thème « Apprendre pour une paix durable », cette journée a été marquée à Lubumbashi, notamment par des activités organisées par l'UNICEF, en collaboration avec l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que la division provinciale du genre, famille et enfants. Objectif, sensibiliser notamment les enfants sur les notions de la paix et les amener aussi à impacter leur milieu de vie pour un monde meilleur. Jean Gandou.
Cette journée était célébrée au complexe scolaire Kachobwe situé dans la commune de Lubumbashi. Pour le responsable de cette école, l'éducation n'est pas seulement l'acquisition des connaissances, elle doit être également considérée comme un levier pour inculquer les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de compréhension entre individus et communautés. Et l'occasion était toute donnée pour sensibiliser les élèves sur la notion de la paix dans les milieux scolaires. D'où cette interrogation que l'un de leurs a adressée à l'inspecteur provincial principal.
Comment l'éducation peut-elle jouer un rôle clé dans la promotion de la paix durable au sein de l'école?
Pour Nicolas Nyangé, les deux notions sont intimement liées.
L'école est un espace où nous inférons des compétences à l'enfant pour lui permettre de véhiculer la paix et de devenir effectivement un artisan de la paix.
Présente à cette manifestation, la chef de bureau par intérim de l'UNICEF Lubumbashi a exhorté les élèves à intérioriser et à appliquer cette notion dans leur vécu quotidien. Consola Tabo Endoa.
Que ce soit ici à l'école, que ce soit dans vos communautés, que ce soit dans votre environnement de vie, partout où vous allez, chers enfants, soyez les personnes qui amènent la paix, qui donnent le message de la paix, qui consolident la paix. Il faut que vous puissiez savoir que votre avenir est basé sur la paix.
Lubumbashi. Bashi, Jean Gandou, Radio Capi.
Actualité internationale.
En Libye, le premier ministre Beïba veut réinstaurer la monarchie pour clore l'imbroglio des élections. À l'initiative du premier ministre de Tripoli, Abdelhamid Beïba, l'émir Mohamed Reda Senoussi revient en Libye le 9 février prochain. Considéré par les royalistes libyens comme l'héritier légitime du trône, car petit-fils de l'émir renversé par le colonel Muammar Kadhafi en 1969, l'émir est convaincu qu'il s'agit de la seule solution pour la Libye. Mais des experts accusent Abdelhamid Beïba d'agir ainsi pour garder son poste.
L'invité.
L'invité de ce journal est Rigan Chollet, l'un des membres du directoire de la plateforme Parvenir, qui rassemble des jeunes des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Il parle des mécanismes à mettre en place pour réclamer le renouvellement de la classe politique, qui, selon eux, n'a plus rien à proposer au peuple congolais. Rigan Chollet répond aux questions de Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Rigan Chollet, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, nous avons vécu aujourd'hui le lancement de votre plateforme appelée Parvenir. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme Parvenir, vous, jeunes de tendances confondues, aussi bien de la majorité que de l'opposition, mais vous vous êtes rassemblés pour créer Parvenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Parvenir?
Comme vous le savez, le constat est amer. Lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, aux terres sacrées de Lumumba, de Kimpavita, de tous ces grands icônes qui ont combattu pour la refondation de ces pays. Et aujourd'hui, on voit leur combat tourner en néant et la République continue à faire des surplaces. Il n'y a pas de développement, il y a carence de tout. On est jeune, conscient, soucié du développement de notre pays. On ne pouvait que prendre la décision de s'élever et de dire qu'il faut changer les choses. Mais comment il faut mettre un cadre au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos formations politiques, au-delà de nos appartenances, mettre un cadre sans couleur, qui va discuter et qui va militer pour des questions très importantes de la République, qui ne sera pas colorée d'une telle formation politique ou d'un tel leader politique, mais qui va rester pour parler Congo. Donc c'est ça, c'est dit à des constats amers de ce que la République connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Oui, mais quel mécanisme allez-vous mettre en place pour essayer de porter loin votre voix, aussi bien dans la classe politique de la majorité que de l'opposition?
Il y a des séries de consultations que nous allons mettre en place. Nous allons consulter des couches nécessaires politiques, société civile, ecclésiastique. Il y a aussi la RI. On va des fois peut-être faire parler de la RI. Il y a la formation des citoyens, l'identification des partis politiques qui ne respectent pas leur mission essentielle confiée telle que la loi le dit. Nous allons mener ces démarches, en tout cas il y a tout un schéma bien établi pour n'est-ce pas y arriver au-delà de nos objectifs.
Monsieur Rigen Chollet, dites-nous, nous avons connu beaucoup de mouvements comme ça en République démocratique du Congo, mais soit ça s'est mu en parti politique, soit encore ça s'arrête en mi-chemin. Dites-nous, monsieur Chollet, jusqu'où comptez-vous aller?
Je ne pense pas que Parvenir deviendra un jour parti politique. Je ne pense pas. On est déjà membre d'un parti politique parce que la majorité de nous, membres cofondateurs de ces réseaux, jusqu'où nous comptons aller, c'est jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Nous sommes assignés des objectifs, nous militons pour sa réalisation. Les jours où nous allons remarquer que les objectifs de Parvenir est atteint, peut-être on sera après nous, après 20 ans, après 50 ans, parce que le combat sera long, le combat sera difficile, mais nous on a osé, on a laissé une marque. Que nous demandons aujourd'hui à la jeunesse de suivre les chemins et de porter cette charge, de continuer le combat. Lumumba avait initié le combat de l'indépendance. Et aujourd'hui, nous continuons à militer, peut-être pour l'indépendance économique de l'RDC. Et donc voilà.
Je suis tenté de vous poser la question, qui est derrière vous?
Qui est derrière nous? Il y a le peuple congolais, il y a notre volonté politique de voir le Congo que nous aimons beaucoup, de voir notre héritage sacré qui nous a été confié par Kimpa Vita, Lumumba, et tous ses pères fondateurs de la République démocratique du Congo. Et voir ce Congo qui aujourd'hui est pris en otage par un groupe d'individus. Nous sommes animés par cette volonté de voir le Congo changer. Qui est derrière nous, il y a la volonté et il y a le peuple congolais.
Monsieur Rigène Cholet, merci beaucoup.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie en tout cas.
Et c'est la fin de ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Il a été mis en onde par Jean-Claude Ntiala, supervision et coordination, Alain Irung Mouchins et Jude Bilandankoumar. À la présentation, Patience Ngalula Banangé. Bonsoir à tous.